Cet audioguide, consacré à la crypte de l'église de Saint-Leu-la-Forêt, se compose de deux parties. Vous en écoutez actuellement la première. La sacristie, dont l'entrée se trouve à la gauche du chœur, permet d'accéder à l'escalier qui descend à la crypte. Située sous le chœur de l'église, la crypte est à voûte surbaissée, portée par trois arcs en plein cintre chanfreinés et reposant sur des piliers aux chapiteaux décorés de feuilles d'acanthe et des lettres B et N sur fond d'entrelacs de feuilles de laurier. Elle est divisée en deux salles par une ligne d'arcade portée par de massives colonnes octogonales. Quatre grands sarcophages de pierre furent réalisés en 1851, simultanément à la construction de la nouvelle église et de la crypte, puis montés sur place. Ils portent les palmes dorées et les suaires de la mort. On voit en premier celui du père de l'empereur Napoléon Ier, Charles, qui est maintenant vide, car ses restes ont été transférés à Ajaccio le 28 avril 1951. Dans la seconde salle, les trois autres contiennent, au fond, le corps du frère de Napoléon Ier, Louis, roi de Hollande et père de Napoléon III, et de chaque côté, ceux de ses deux premiers fils, Napoléon Charles à gauche et Napoléon Louis à droite. Une longue histoire que celle des voyages des dépouilles napoléoniennes de Saint-Leu. Charles-Marie Bonaparte, père de la dynastie, né le 27 mars 1746, mourut le 24 février 1785 à Montpellier d'un cancer de l'estomac alors qu'il se trouvait avec son fils Joseph dans cette ville pour prendre les eaux de Balaruc et consulter des sommités médicales de l'époque. En mars 1803, Joseph et Louis Bonaparte décidèrent, dans l'espoir de pouvoir un jour l'honorer d'un monument plus grandiose et contre l'avis de Napoléon, qui en fut furieux, de faire déplacer le corps de leur père. Après des recherches délicates pour retracer sa dépouille dans l'ancien cimetière de l'Observance de Montpellier, qui avait été entre-temps vendu pendant la Révolution, c'est par une comparaison de cheveux avec ceux conservés par Joseph qu'auraient été identifiés les restes du père de l'empereur. La dépouille de Charles fut transportée clandestinement en mai 1803 dans le parc du château de Mortefontaine, dans l'Oise, propriété de Joseph. C'est par un message annonçant l'arrivée d'un précieux colis emballé très soigneusement, dont la clé était dissimulée dans l'enveloppe d'une des poignées du coffre, que Joseph fut averti. Les documents d'accompagnement déclarèrent le transport d'une pendule. Après l'abandon de Mortefontaine par Joseph, Louis fit élever, dans le parc de son château récemment acquis à Saint-Leu, une fabrique dite « tombeau égyptien », où il fit placer secrètement la dépouille de son père. Napoléon Charles, premier fils de Louis, devenu roi de Hollande en 1806, et de la reine Hortense, que l'empereur considérait comme son héritier potentiel, mourut de la diphtérie, le croup, le 5 mai 1807, à l'âge de 5 ans, à La Haye. Il fut ramené et enterré à Notre-Dame de Paris sur ordre de Napoléon Ier, qui envisageait d'en faire le premier occupant à Saint-Denis, d'une future chapelle de la 4e dynastie, celle des Napoléonides. Le journal de l'Empire, du 9 juillet 1807, décrit ainsi l'arrivée de la dépouille mortelle du petit prince. Quoique cette cérémonie n'ait eu aucune solennité, l'objet n'a pu en être ignoré. Et il a occasionné, autour de l'église dont les portes ont été fermées au public, un grand concours de peuple. Et il a été facile de lire sur le visage des spectateurs l'impression douloureuse qu'ils éprouvaient en voyant le convoi de ce jeune prince, objet de tant d'affection et déjà sujet de tant d'espérance, enlevé à sa famille, à la France, à la Hollande, à qui il était également cher. La douleur publique s'accroissait de la douleur connue de ses augustes parents, et cette première perte d'une illustre famille, à qui la France doit sa gloire et sa prospérité, à qui l'Europe devra le repos, était justement considérée comme une calamité. Après les 100 jours, sur ordre de Louis XVIII, le clergé de la cathédrale fit exhumer ses restes et les rendit à sa mère, la reine Hortense, qui les fit inhumer dans la chapelle du château. Le prince de Condé se réinstalla en 1819, mais comme le rapporte l'historien de Guillermy, le prince, ennuyé de servir de concierge à une sépulture napoléonienne, réclama la destruction du monument égyptien. Le curé de Saint-Leu, Jacques-François Deschard, dont on peut encore voir la tombe à l'extérieur de l'église et qui avait été proche de Louis Bonaparte, accepta de recueillir les dépouilles, les fit transporter de nuit et les fit inhumer dans le cœur de son église. Elles furent placées dans un tombeau de marbre bleu avec l'inscription suivante. Ici reposent les corps de Charles Bonaparte, père de l'empereur, et de Napoléon Charles Bonaparte, fils de Louis Bonaparte, ex-roi de Hollande. En 1845, dans son testament, Louis avait indiqué qu'il souhaitait être inhumé dans l'église paroissiale de Saint-Leu. Le corps de Louis, mort le 25 juillet 1846, fut disposé provisoirement dans l'église Sainte-Catherine de Livourne en attendant qu'on puisse le transporter en France suivant son vœu. Ce fut fait le 29 septembre 1847. Retrouvons les commentaires de l'époque. Les funérailles s'accomplirent avec la plus touchante solennité. 500 vieux soldats de l'Empire, venus de toute la France, assistèrent à la cérémonie. Le prince Napoléon Jérôme, cousin germain du prince président, appelé Plomplon, donnant le bras à sa sœur, la princesse Mathilde, présida l'office en l'absence du futur Napoléon III, maintenu exilé par le roi Louis-Philippe. L'église de Saint-Leu n'est pas assez vaste. L'autel, le sanctuaire et le chœur sont entièrement couverts de noir et de banderoles blanches. À droite est le feu roi, à gauche est le feu prince. Le matin, les rues adjacentes sont interdites aux voitures et au public. La ruelle côté latéral de l'église étendue de noir. La garde nationale défile, suivie des invités. Le cortège est fermé par la gendarmerie. Les troupes exécutent une salve de mousqueterie sur la place de l'église et les cloches sonnent à grande volée. À l'entrée de la crypte, une petite salle présente la plaque en marbre qui porte l'épitaphe à la mémoire de Napoléon Louis. Elle est ornée d'un merveilleux profil en marbre signé Bartolini. À l'origine, placée dans le cloître du Saint-Esprit à Florence, elle a été ramenée d'Italie avec les deux dépouilles en 1847. On sait que la fin de ce prince, tué à Forlì en 1831, sans avoir pu combattre, dans l'insurrection des Romagnes, à laquelle il avait voulu prendre part avec son frère cadet, le futur Napoléon III, a pu prêter à des interprétations diverses. La reine Hortense, qui était venue au-devant de son fils, ne ramena qu'un cadavre. Il y a dans cette mort une part de mystère. Même si la cause officielle de la mort demeure la rougeole, certaines sources prétendent qu'il fut tué pour avoir refusé de marcher contre les troupes du pape. Il existe d'ailleurs des lettres du roi Louis demandant avec insistance si son fils aîné n'a pas été assassiné. C'est à partir de la construction de la nouvelle église et de sa crypte en 1851 que les quatre membres de la famille impériale seront enfin réunis. Après la chute de l'Empire, les caveaux de Saint-Leu tombèrent dans l'oubli. Citons à ce propos le Petit Parisien du 13 juillet 1895. Dieu sait si depuis quelques années on a remué tous les souvenirs napoléoniens. Ce grand mouvement n'a pas eu pour effet de rien changer à l'oubli, à la solitude de certains tombeaux de la famille impériale, encore qu'ils se trouvent tout près de Paris et qu'ils soient pour les curieux de l'abord le plus facile. Ces tombeaux sont dans un caveau de la petite église de Saint-Leu, sur la ligne du Nord, à une demi-heure de Paris. Bien qu'une mention porte en assez grandes lettres « Entrée des caveaux de la famille impériale », personne ne songe à les visiter. Et il y avait bien longtemps qu'on ne s'était adressé à la gardienne, quand le hasard, ces jours-ci, me conduisit à lui demander de me les ouvrir. La brave femme parut presque étonnée de cet intérêt auquel elle n'était plus habituée. L'aspect de ces caveaux est assez imposant. On descend par un escalier assez étroit et l'on se trouve dans une chambre funéraire glaciale. Quatre sarcophages s'élèvent. La gardienne, par une sorte de piété de cette absence de souvenir, a placé sur ses tombes une branche de buis. On ne voit qu'une vieille couronne qui tombe en morceaux et où péniblement on peut déchiffrer cette inscription. Deux cœurs dévoués à la famille impériale. Pour la continuité du récit, veuillez à présent lancer le fichier Audioguide de la crypte, partie 2.